Bonjour et bienvenue sur Nos Limites Sécu, le podcast où seul le temps nous limite. Le but de ce podcast est de vous donner un éclairage sur une problématique ou un événement qui marque l'actualité de la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de GDPR, donc GDPR pour Global Data Protection Regulation. Et pour discuter de ce sujet, nous recevons Guillaume Desjans.
Bonjour.
Didier Hénin.
Bonjour.
Et Frédéric Cohn.
Bonjour.
Pour discuter avec eux, les contributeurs Nos Limites Sécu sont Jean-Philippe Gaulier.
Bonjour.
Hervé Schauer.
Bonjour.
Nicolas Ruff.
Bonjour.
Et moi-même, Johan Uloa. Alors, Didier, est-ce que tu veux bien te présenter rapidement?
Oui, donc Didier Hénin, responsable de la sécurité des systèmes d'information de l'entreprise de but international et membre du CLUSIF.
Guillaume.
Bonjour à tous, donc moi je suis Guillaume Desjans, je suis magistrat et je suis maître de conférence au Conservatoire National des Arts et Métiers où je suis en charge du certificat de spécialisation pour les correspondants informatique et liberté et plus largement pour les professionnels qui s'intéressent à la protection des données et j'ai travaillé plusieurs années à la CNIL, voilà.
Frédéric.
Alors, je suis directeur juridique d'HSC by Deloitte et je m'occupe de notamment tout ce qui est formation pour les correspondants informatique et liberté et plus largement les données à caractère personnel.
Alors, GDPR, pourquoi un règlement européen a-t-il été mis en œuvre?
Parce que on était depuis plus de 20 ans sur une directive européenne. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une directive européenne? C'est un instrument qui, on va dire, respecte la souveraineté des États, en ce sens que c'est un instrument européen qui donne simplement des instructions aux États, des directives, pour qu'ils modifient leur droit national conformément à ces instructions, à ces directives. Alors, c'est assorti d'un certain nombre de choses, un délai de transposition, etc. Et ça produit une certaine fragmentation, puisque l'étape qu'on appelle de transposition, qui consiste pour les États à intégrer dans leur législation nationale les dispositions de la directive, elle se fait pas exactement de la même manière entre les différents États. L'idée, c'est que on avait une directive depuis le 24 octobre 95 sur la protection des données à caractère personnel. Et cette directive, elle date de 95, donc forcément en 1995, on n'était pas du tout dans le même contexte qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous vous rappelez, Internet était inconnu du grand public et on n'avait pas du tout les problématiques liées à la conservation des données à caractère personnel telles qu'on les a aujourd'hui. Alors du coup, il y a quelques années, l'idée a été au niveau européen d'avoir une mise à jour de cette directive, donc une modernisation de cette directive. Mais étant donné que avec la directive, il y avait eu des délais de transposition qui étaient très longs, en France, on a transposé en 2004, alors que la directive datait de 95, donc on a quand même mis 9 ans à transposer, et on voulait pas que ça se reproduise. Et l'idée, ça a été d'avoir un règlement européen. Le règlement, il est différent des directives en ce que il n'y a pas cette étape de transposition. Le règlement, il est applicable directement, immédiatement, dans le sens il n'y a pas d'intermédiaire. Et le règlement permet donc d'avoir une législation qui est identique dans tous les États, puisque le règlement s'appliquant directement de la même manière dans tous les États, la seule variation qu'il peut y avoir, c'est la variation au niveau de la traduction. Et ça, globalement, c'est quelque chose qui est totalement négligeable. Donc l'idée, c'est que le 25 janvier 2012, on a sorti, la Commission européenne a sorti un projet de règlement, et à partir de là, eh bien, il y a eu des discussions pendant 4 ans, et on a abouti très récemment à la publication du règlement européen après des phases qu'on appelle de trilogue, puisque en fait, dans l'Union européenne, il y a non pas 2 organes, mais 3, hein, qui sont la Commission, le Conseil et le Parlement. Et il faut que les 3 soient d'accord. Donc, du coup, ils n'ont pas dialogué, ils ont trilogué. Et ils sont arrivés à un accord fin décembre 2015. Le temps que les choses passent au Parlement et que la procédure législative européenne suive son cours, eh bien, on a abouti à une adoption. Alors, formellement, le Parlement le 14 avril, après le 27 avril, la publication le 4 mai et finalement l'entrée en vigueur le 24 mai dernier. Ce qui est très important, c'est que ce règlement aujourd'hui, il est en vigueur, mais il n'est pas applicable.
Frédéric, avant de passer à l'applicabilité, est-ce que ce délai qu'on pourrait considérer comme long, 4 ans, entre le début du travail et puis la promulgation, si je puis dire, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit travail de lobbyisme derrière qui aurait été fait par quelques entreprises ou quelques États?
Ah bah, sur quelques entreprises et quelques États, hein. D'autant que les États étaient pas tous d'accord les uns avec les autres puisqu'ils avaient des intérêts divergents sur certains sujets. Il faut savoir que les trois projets, hein, puisqu'il y a eu trois projets, il y a eu le projet de la Commission qui était le projet initial, mais il y a aussi eu un projet du Parlement et un projet du Conseil, c'est-à-dire que les trois ont proposé des choses. Et typiquement, il y a eu des tentatives pour que, par exemple, les autorités de contrôle, il y ait une désignation, on va dire, d'une seule autorité de contrôle qui soit compétente sur dans certaines affaires. Et forcément, il y a l'autorité de contrôle irlandaise qui a plein d'opérateurs de cloud, notamment sur son territoire. Et forcément, il y aurait eu un certain nombre de problèmes si elle avait été compétente sur tous ces sujets. Donc, il y a eu des choses comme ça.
Oui, donc vous dites qu'il y aurait des lobbies qui auraient essayé de faire modifier le texte et d'influer sur une des trois versions entre nos trois instances européennes. À qui vous pensez? À une certaine catégorie d'acteurs, comme, les gens qui font du marketing, ou à des grands acteurs de l'Internet nord-américain, aux opérateurs, qui donc a essayé d'influencer le texte?
Alors, c'est Guillaume là qui parle. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que d'abord, ce texte qui a été adopté assez rapidement, finalement, à Bruxelles, puisqu'il a été adopté en 4 ans, par rapport au délai pour adopter la directive européenne, ça a été très court, ce qui montre que au niveau européen, il y a maintenant une vraie prise de conscience politique sur l'importance de ces questions. C'est le texte au niveau européen qui, manifestement, a fait l'objet de la plus forte opération de lobbying depuis qu'on adopte des règlements. Et notamment, les grands acteurs de l'Internet américain se sont extrêmement positionnés sur ce texte pour solliciter des modifications, des amendements. Et ce qu'on peut constater aujourd'hui, et moi je le regrette, c'est que ce texte qui fait plus de 100 pages, il dit pas un mot, par exemple, de la question des moteurs de recherche. Alors ça veut pas dire que les moteurs de recherche sont pas concernés par le texte, mais il n'y a aucune disposition spécifique sur les moteurs de recherche. Et ça, on peut vraiment le regretter. Il faut, par exemple, à titre de comparaison, dire que depuis 2002, au niveau européen, il y a des textes spécifiques qui prévoient des obligations pour les opérateurs télécoms en matière de protection des données. Et aujourd'hui, vu l'importance que les moteurs de recherche, notamment Google, ont pris, on peut tout à fait regretter qu'il n'y ait pas des dispositions spécifiques qui soient prévues par le texte. À titre d'exemple, vous savez peut-être qu'il y a un peu plus d'un an, la Cour de justice de l'Union européenne a consacré un nouveau droit pour les internautes qui s'appelle le droit au déréférencement. Donc le droit au déréférencement, c'est le droit qu'ont les internautes de demander à ce qu'une information qui les concerne et qui est enregistrée dans un moteur de recherche soit supprimée de l'index du moteur de recherche. Eh bien, ce droit au déréférencement, qui juridiquement existe, il n'est pas visé dans le règlement européen.
Oui, mais est-ce qu'on ne pourrait pas se poser les mêmes questions sur le droit à l'oubli sur un réseau social où on voit que ça peut être parfois un peu compliqué? Est-ce qu'on enlève juste notre compte? Est-ce qu'on enlève tous les commentaires qu'on a fait, etc.
Dans le règlement, il y a quand même des choses. Il y a un certain nombre d'exceptions sur tout ce qui concerne la liberté de la presse, etc. Il y a quand même des choses qui sont relatives à ce type de droit, mais globalement, effectivement, il n'y a pas de prise en compte des dernières évolutions de la jurisprudence européenne.
Non, juste d'un mot, de même, il y a une question sur le consentement, puisque si je reprends l'exemple des textes européens spécifiques pour les opérateurs télécoms, aujourd'hui, en matière de géolocalisation, le droit européen prévoit que les personnes, pour pouvoir être géolocalisées, doivent donner leur consentement explicite. Et c'est pour ça que quand on utilise une appli sur son smartphone et qu'on cette appli veut nous géolocaliser, elle nous demande notre autorisation formelle. Ça, c'est le droit européen qui l'oblige et c'est issu des textes qui contraignent les opérateurs télécoms. Bon, bah aujourd'hui, les moteurs de recherche ont pris une place essentielle, notamment Google, dans l'accès à l'information sur Internet. On sait que cet accès à l'information, c'est aussi une énorme machine à cash parce que l'argent qui est généré par la publicité ciblée est très important sur ces sites. Et ben, on aurait pu peut-être s'interroger sur l'opportunité de déterminer une même règle de consentement pour que les moteurs de recherche collectent un certain nombre de données et les utilisent à des fins commerciales. Parce que finalement, hier, les opérateurs télécoms qui sont des fournisseurs de tuyaux incontournables, on considérait qu'il fallait un petit peu limiter leur pouvoir technique. Et aujourd'hui, on n'a pas eu le même raisonnement avec les moteurs de recherche. Et je trouve que c'est dommage.
Et toi, penses que c'est dû à un lobbying ?
Et je pense que c'est en très grande partie dû à un lobbying, bien sûr.
C'est-à-dire qu'en fait... Les problèmes de Google avec la CNIL aujourd'hui, pour parler que de ça, typiquement, sont des choses qui relèvent d'une certaine forme de lobbying. Le fait que Google refuse notamment le déréférencement sur les extensions en dehors de la France, ça c'est quelque chose qui est aujourd'hui un gros conflit entre Google et pas seulement la CNIL, hein, mais les autorités de contrôle au sens large.
Alors, pour revenir à GDPR... Ouais. Est-ce que là on parle de moteurs de recherche, on a parlé d'opérateurs télécom. Est-ce que toutes les entreprises sont concernées? Est-ce que justement c'est uniquement certains types d'entreprises?
Alors non seulement, il y a juste un truc qu'on n'a pas dit quand même, c'est que il y a un délai de 2 ans avant qu'il soit applicable, parce qu'on s'en était arrêté là quand on a dit qu'il y avait des lobbying, etc. Ça c'est quand même un point important. Il est en vigueur aujourd'hui, mais il n'est pas applicable. Il sera applicable le 25 mai 2018.
Ça veut dire quoi, voilà. Frédéric, applicable?
Alors, ça veut dire en gros que aujourd'hui, on peut entre guillemets faire comme s'il n'était pas là d'un point de vue totalement strict et de celui qui veut faire un peu l'autruche par rapport à ça, mais que le 25 mai 2018, du jour au lendemain, tout sera applicable et celui qui se sera pas préparé, il aura beaucoup de difficultés. En gros, pourquoi il y a un délai de 2 ans? Il y a un délai de 2 ans. Pour que les entreprises, notamment, puissent se préparer, parce que les changements qui sont impliqués par le règlement, par rapport à la directive et aux lois de transposition de la directive, sont énormes. Et du coup, 2 ans, c'est pas de trop pour se préparer. Et voilà, c'est vraiment dans cet esprit-là qu'il y a 2 ans de délai entre le moment où le règlement entre en vigueur, c'est-à-dire que c'est sûr qu'il est adopté d'une certaine manière. Hein. On est sûr que voilà, on est plus dans l'hésitation. On a parlé pendant longtemps du projet de règlement européen. Aujourd'hui, c'est plus un projet. Il est adopté, il est en vigueur. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais on n'a pas encore à le respecter en tant que tel. En revanche, le 25 mai 2018, il faudra le respecter en entier. Et il faudra être prêt, notamment sur la réalisation d'analyses d'impact, sur pas mal de choses qui n'existent pas aujourd'hui. Donc, il y a vraiment un moment pour se préparer.
Didier Hénin, se préparer justement, qu'est-ce que ça signifie pour une entreprise?
Oui, alors je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit précédemment. La tâche pour les entreprises va être énorme. Et 2 ans va être... un délai relativement court, de manière à pouvoir se mettre en conformité par rapport à ce nouveau règlement européen. Même si aujourd'hui nous avons une bonne partie des recommandations qui sont traitées par la loi du 6 janvier 78, mais il va y avoir toute une revue en fait des contrats à faire, un apprentissage en fait des utilisateurs. De toutes les entreprises et à tous les étages, notamment au niveau du marketing, puisque il va falloir faire comprendre à l'ensemble du personnel traitant des données à caractère personnel, notamment pour ce qui nous concerne dans mon domaine, dans mon secteur, d'utilisation des données de nos clients. Ça va être quelque chose d'énorme à faire accepter et à faire passer.
Et alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est que pour se préparer à ce règlement, forcément, la première chose que l'on est tenté de faire, c'est d'aller le lire. Bon, juste un point là-dessus, c'est un texte qui n'a rien à voir avec ce qu'on a l'habitude de voir en France, pour ceux qui n'ont pas forcément l'habitude de voir des règlements européens. Ça peut paraître très gros, il y a 99 articles, ça fait 88 pages quand on l'a en PDF en français, il y a 173 considérants au début à lire, mais l'idée c'est que il faut pas forcément le lire comme on va dire un roman ou du début à la fin, sinon c'est sûr vous allez vous endormir au bout de 3 pages, surtout si vous commencez vraiment par le début. Et c'est un peu l'esprit des textes européens qui est un petit peu plus proche de l'esprit juridique américain que de l'esprit français. Il y a beaucoup de choses et il faut pas être rebuté par ce contenu qui est assez dense, qui a l'avantage de rentrer un peu dans les détails par rapport à ce qu'on peut avoir dans la loi informatique et liberté. Et qui sera aussi précisé puisque la Commission européenne pourra prendre des actes délégués et donc préciser aussi le contenu. Également, les lois nationales pourront être amenées à intervenir et à préciser un certain nombre de choses. La loi informatique et liberté en France, la loi du 6 janvier 78, va continuer à exister après. Hein.
Revenir sur une chose que tu as dite, Frédéric, tout à l'heure, pour être bien clair pour nos auditeurs, tu as dit c'est voté, c'est en vigueur, mais c'est pas applicable. Oui. Est-ce que c'est pas applicable ou est-ce que ce n'est pas justiciable? C'est-à-dire que les sanctions existent, mais ne seront pas appliquées avant 2 ans.
Non, c'est une question que les obligations qui naissent du règlement ne sont pas applicables. Autrement dit, on peut pas être en contradiction avec ce que prévoit le règlement aujourd'hui. Simplement, le 25 mai 2018, on le sera du jour au lendemain. On va se réveiller le 25 mai 2018. Si on fait pas ce qu'il faut instantanément, ce sera pas bon.
Et donc, on passera.
En fait, les personnes fichées pourront invoquer devant un juge ou devant la CNIL ces nouvelles dispositions en mai 2018. Et peut-être pour compléter ce qui a été dit juste avant, c'est vrai que ce délai de 2 ans, c'est l'occasion pour les entreprises, mais aussi les administrations d'ailleurs, parce que cette réglementation va s'appliquer à tous les opérateurs, toutes les structures qui collectent de la donnée personnelle, que ce soit des structures privées ou publiques. Donc 2 ans pour se mettre à jour par rapport à un certain nombre d'obligations nouvelles, mise en place d'un registre des traitements, études d'impact, tout ce qui a été dit. Mais il faut dire aussi qu'il y a un nouvel acteur qui est consacré par ce texte, c'est le délégué à la protection des données. En France, il existe déjà sous une autre forme, c'est ce qu'on appelle le CIL, le correspondant informatique et liberté. Et d'une part, un certain nombre d'entreprises ou d'organismes publics vont être obligés de désigner un délégué à la protection des données, notamment dans les structures publiques et dans les structures privées qui manipulent régulièrement de la donnée en quantité importante. Donc il y a une première question à se poser, c'est est-ce que je dois désigner dans ma structure un délégué à la protection des données, et ça concerne pas que les grandes entreprises. Et puis au-delà, c'est le rôle du délégué à la protection des données qui est important, parce que ce sera un peu le chef d'orchestre justement de toutes ces nouvelles obligations qui vont incomber à l'entreprise. Le délégué à la protection des données, il devra vérifier que toutes les obligations qui figurent dans le règlement seront respectées, et il devra documenter cette conformité, c'est-à-dire il devra être capable de justifier à la CNIL ou au juge que tout a été fait conformément aux nouvelles obligations.
Alors, est-ce qu'il y a un seuil qui a été déterminé pour
dire... Non, en fait. Il y avait au départ un seuil qui était de mémoire de 250 salariés.
Oui, mais en fait, dans un projet, il était à 5000 aussi. Mais...
Voilà. Ça, c'est parti. Maintenant, il y a 3 critères. C'est les structures publiques. Donc, elles doivent toutes désigner un délégué à la protection des données. Ce sont les structures privées qui manipulent, alors j'ai plus les termes exacts en tête, mais qui manipulent régulièrement de la donnée.
Ouais. En fait, c'est pas compliqué. Le DPO, c'est le pompier. Alors, j'explique. Parce que le DPO, le pompier, il est dans le public. Donc, tout ce qui est organisme public et autorité publique, c'est concerné, il faut un DPO. Et puis, il faut aussi un DPO quand les activités de base du responsable de traitement ou du sous-traitant, parce qu'il y a aussi le DPO possible chez les sous-traitants, bon, c'est aussi une nouveauté là-dessus, quand ces activités, elles consistent à avoir des opérations de traitement qui, alors bon, le texte rentre un petit peu dans les détails hein, par rapport à leur finalité, leur portée, etc., leur nature, conduisent à faire des traitements à grande échelle, et c'est là qu'on rejoint le pompier, de données sensibles ou de données qui sont relatives à des infractions ou des condamnations, à ce moment-là, il faut un DPO. Voilà, donc c'est vraiment le public et tout ce qui est grande échelle. Voilà, c'est pour ça que je disais que c'est les pompiers.
Ça veut dire que si je suis une petite entreprise de menuiserie qui tient son fichier client à jour et qui fait de l'envoi une fois par trimestre, je n'ai pas de risque avec ce règlement, ça ne me concerne pas.
Ah bah, je ne serai pas obligé de désigner un délégué à la protection des données, mais je serai obligé de respecter toutes les autres dispositions. Donc je suis concerné.
Quelles sont-elles ces dispositions pour moi petite entreprise ou pour moi grande entreprise ?
Ben, en fait, ce qu'on peut dire d'abord, c'est qu'il y a une grande nouveauté pour les entreprises, c'est qu'il n'y a plus de déclaration à la CNIL. Et ça, c'est une révolution parce que même si la loi informatique et liberté, elle existe depuis plus de 40 ans, il y a encore beaucoup d'entreprises qui pensent que leur obligation principale, au regard de cette loi, c'est de déclarer les fichiers à la CNIL. Et c'est vrai, sauf que c'est pas du tout la seule obligation, et j'ai envie de dire c'est peut-être même la moins importante, parce que dans la loi actuelle, hein, déjà, on doit déterminer des durées de conservation, on doit sécuriser les données, on doit informer correctement les gens, et c'est quand même ça, les obligations importantes qui protègent les personnes. Donc, dans le règlement, les déclarations à la CNIL, c'est fini, on n'a plus rien à déclarer. L'esprit du règlement, c'est de dire, on arrête avec les formalités administratives qui sont pas tellement efficaces en termes de gestion de la conformité, et on remplace ça par l'obligation pour toutes les entreprises et les structures publiques aussi de mettre en place un plan de mise en conformité dans lequel on va demander de rédiger des procédures pour démontrer par exemple que les droits des personnes, l'information, l'accès, etc. sont respectés. On va leur demander de mettre en place un registre des traitements, donc de lister dans un registre tous les fichiers qui sont mis en œuvre en interne. Ou autre exemple, on va leur demander parfois de rédiger ce qu'on appelle des études d'impact sur une liste de traitements qui va être déterminée à la fois par le règlement et par le régulateur local, par la CNIL. Donc les traitements un peu sensibles, eh bien les entreprises devront prendre l'initiative de faire des études d'impact pour anticiper les risques en termes de vie privée et indiquer ce qu'elles entendent faire pour protéger les données.
Et alors en gros, sur les analyses d'impact, l'idée c'est est-ce qu'il y a un risque pour les droits et libertés des personnes ? S'il y a un risque potentiel, il faut faire une analyse d'impact, et l'analyse d'impact doit déterminer si oui ou non il y a réellement un risque. Et s'il y a un risque, à ce moment-là, il faut demander l'avis de l'autorité de contrôle, donc en France de la CNIL, et c'est elle qui pourra soit faire un contrôle, soit éventuellement interdire le traitement ou imposer des mesures qui permettent de réduire ce risque.
Ce qui est important, c'est que l'analyse d'impact, pour ceux qui sont habitués de l'émission, ils vont se dire « Ah, ça ressemble à nos analyses de risque ». N'oubliez pas qu'une analyse de risque, c'est dans l'intérêt de l'organisme, de l'entreprise, de la collectivité. Là, il s'agit d'une étude d'impact par rapport à l'intérêt de la personne dont vous détenez les données. C'est pas du tout par rapport à l'intérêt de l'organisme ou de l'entreprise.
Rapport au risque pour cette personne, voilà.
Donc c'est quand même quelque chose de très différent qui vient en plus, hein, même si les mécanismes de base sont les mêmes.
C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on est à la création d'un projet, à l'initialisation d'un projet, il faut se poser la question, est-ce que ce projet, potentiellement, peut générer un risque pour les personnes concernées?
Si je reviens sur mon exemple de petite entreprise là de fenêtre, j'ai pas forcément d'informaticien. J'ai essayé de déclarer bien mes affaires à la CNIL. Alors je comprends que ça sert plus à grand chose maintenant. Peut-être je peux me passer d'un DPO parce que j'ai peut-être pas besoin d'un pompier. Par contre, je comprends que ça va devenir beaucoup 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 plus difficile pour moi. On me parle d'analyse d'impact. À qui je m'adresse? Qu'est-ce que je sais? Je viens de comprendre. On vient de m'expliquer, mais moi je suis pas informaticien. Comment je fais mes analyses d'impact? Il faut que j'embauche un cabinet comme pour mon comptable?
Ben, ce qui est sûr, c'est que les nouvelles obligations, il va falloir que la CNIL assiste un peu les petites entreprises pour savoir comment les respecter. Les études d'impact, clairement, ça va quand même toucher des fichiers un peu sensibles. Donc la PME-PMI, qui a en gros un fichier client de base et un fichier de gestion de ses salariés de base, a priori, elle n'aura pas à faire d'études d'impact. Mais ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, la CNIL renseigne beaucoup sur les formalités déclaratives à accomplir, etc. Demain, il n'y en a plus. Et le rôle de la CNIL, ça va être d'accompagner les entreprises et de les informer sur leurs obligations dans ce nouveau contexte. Et c'est un vrai challenge pour la CNIL, et c'est une des inquiétudes d'ailleurs, hein, une des incertitudes, de savoir si la CNIL va être en capacité de remplir ce rôle-là. Il faut savoir qu'à partir du moment où ce sont les entreprises qui vont elles-mêmes un peu s'auto-contrôler, puisque, encore une fois, ce qui était fait dans les déclarations, finalement, maintenant, va être fait en interne. Alors, après, la CNIL peut faire des contrôles sur place, mais dans cette phase un peu en amont, c'est l'entreprise elle-même qui va s'auto-évaluer, qui va s'auto-estimer si ce qu'elle met en place est suffisant pour protéger les données. Bon, eh ben, il faut que la CNIL donne des référentiels aux entreprises pour les aider, pour savoir comment évaluer sur des fichiers de gestion des salariés, des fichiers de lutte contre la fraude, des fichiers clients, des fichiers marketing. Quels sont les points de contrôle que l'entreprise va devoir regarder? Et ce qu'on peut déplorer, c'est que ben, sur la période récente, hein, sur les dernières années, la CNIL, elle a produit malheureusement de moins en moins de référentiels. En matière, par exemple, de gestion des salariés, il y a des sujets qui sont sur la table depuis très longtemps, depuis 10 ans, 15 ans, et sur lesquels la CNIL a toujours pas mis à jour ses recommandations. Par exemple, en matière de recrutement, la dernière recommandation de la CNIL, elle remonte à 2002. Et bref, il faudra que demain, la CNIL, elle produise énormément de référentiels, parce que sinon, ben, les entreprises se débrouilleront toutes seules. Et c'est pas sûr que ce soit un gage de qualité pour la protection des données.
Et pourquoi c'est une autorité nationale qui doit produire tous ces guides? L'Europe n'a pas prévu de compléter avec tous ces guides dans toutes les langues?
Si, si, ça sera fait aussi au niveau européen.
Ouais. En fait, au niveau européen, juste là-dessus, ce qu'on connaissait jusqu'à présent sous le nom du G29, hein, qui n'a rien à voir avec le G8 ou le G20 ou je ne sais quoi d'autre du même type, qui est le groupe de l'article 29 de la directive, il est remplacé par le Comité européen de la protection des données, qui est, on va dire, un petit peu l'équivalent, mais avec des possibilités un petit peu étendues par rapport à ce que pouvait faire le G29 jusqu'à présent. Juste une chose sur l'absence de formalité préalable. Il y a effectivement une disparition de toutes les obligations liées à la déclaration à la CNIL, notamment. Ça n'empêche pas que le recensement des traitements continuera à être une obligation, puisqu'il faudra avoir un registre des traitements. Et ce registre, contrairement à aujourd'hui, où il est tenu lorsque un correspondant informatique et liberté a été désigné, il est tenu par ce correspondant. Demain, le registre sera tenu par le responsable de traitement ou le sous-traitant. En pratique, ça pourra être le DPO, hein, concrètement. Mais il faudra quand même continuer à recenser les traitements, sauf pour les entreprises de moins de 250 personnes, dans la mesure où il n'y a pas, là aussi, de risque pour les droits et libertés des personnes. Il y a quelques autres exceptions plus marginales, mais il faudra quand même continuer. Donc, Jean-Philippe, pour ta petite entreprise de menuiserie, si elle fait moins de 250 personnes, a priori, ça devrait aller.
D'accord. J'ai cru comprendre que sur le consentement, hein, qui a priori avant ce règlement était plus ouvert, il y avait des petites choses qui avaient changé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer s'il y a autour de ça ?
En fait, il y a deux choses qui apparaissent au niveau du consentement. C'est une distinction entre deux types de consentement. On va dire le consentement qu'on peut appeler univoque, puisque c'est le terme qui est employé dans la définition, qu'on pourrait aussi dire le consentement non ambigu, et puis le consentement explicite. La différence entre les deux, c'est que le consentement univoque, et on va dire le consentement simple, correspond à je fais quelque chose qui manifeste que je suis d'accord, mais je ne dis pas nécessairement explicitement que je suis d'accord. Et le consentement explicite, à l'inverse, c'est je coche une case, je dis que je suis d'accord, que je consens expressément à quelque chose. Et ça, typiquement, c'est ce qu'on retrouve en matière de conservation de données sensibles. Il y a plusieurs endroits où on retrouve le consentement explicite, mais il y a effectivement cette évolution entre le consentement simple, consentement univoque, et le consentement explicite qui, justement, requiert une action spécifique de la personne concernée, alors que le consentement univoque, c'est quelque chose qu'on peut inférer des actions de la personne. Typiquement, si elle va ouvrir un compte sur un site web, on peut imaginer qu'elle était d'accord pour qu'il y ait un traitement des données qu'elle a données au moment de son inscription.
Oui.
À partir du moment où c'est un site...
C'est déjà le cas aujourd'hui d'avoir le consentement explicite.
Oui. Alors, mais le consentement explicite, là, typiquement, si c'était un site là de qui impliquait, par exemple, de connaître la religion de la personne, là, il faudrait le consentement explicite, typiquement.
Oui, sauf que c'est un peu interdit.
Alors, moi, ce que je voudrais juste dire là, c'est que la question du consentement, c'est un bon exemple de la problématique des droits des personnes. La Commission européenne a beaucoup communiqué en disant que ce projet allait renforcer les droits des internautes, les droits des personnes de manière plus large. Et autant la dimension entreprise, ça, c'est clair qu'il y a des progrès, parce qu'encore une fois, la suppression des formalités préalables, c'est quand même une bonne chose. La mise en place de ces programmes de conformité, c'est plutôt une bonne chose dans l'intérêt des personnes. Le lissage, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus qu'un seul texte au niveau européen, c'est vraiment excellent, parce que jusqu'à présent, les entreprises qui travaillent au niveau pan-européen, elles doivent composer avec 28 réglementations nationales qui sont différentes les unes des autres. Donc tout ça, c'est bien pour les entreprises maintenant. Mais en revanche, est-ce qu'il y a vraiment eu des progrès au niveau des droits des personnes? Moi, je suis pas certain. Et typiquement, le consentement, eh ben, on a beau nous en parler à tort et à travers, la réalité, c'est que la disposition n'a pas changé. C'est-à-dire que la disposition qui est dans le règlement, elle est déjà aujourd'hui dans la loi française, à savoir que le principe, c'est bien qu'on doit recueillir le consentement des gens pour utiliser leurs données, sauf que ce consentement, il est assorti de toute une liste d'exceptions qui font qu'en réalité, en pratique aujourd'hui, le consentement, il sera jamais recueilli, sauf dans des cas très spécifiques. C'est par exemple le cas que tu indiquais de collecte de données sensibles, c'est le cas de la géolocalisation. Enfin, c'est les cas qui sont prévus spécifiquement par la loi. Pourquoi ? Parce que parmi les exceptions, il est dit que dès lors qu'on est dans un contexte contractuel, c'est-à-dire qu'en gros, la personne, elle doit donner des données personnelles parce qu'elle est dans une relation contractuelle avec l'entreprise, eh ben, il n'y a plus besoin de consentement. Il faut juste que l'entreprise s'assure qu'elle a un intérêt légitime à collecter les données. Donc, en fait, le consentement, ça va pas changer grand-chose.
Et en fait, le consentement tel qu'il était écrit dans la directive, c'était simplement le principe. Et effectivement, comme tu le disais, Guillaume, il y avait plein d'exceptions. Là, simplement, c'est le premier cas possible, le consentement. Et bon, après, on a également tout ce qui relève de l'intérêt légitime du responsable de traitement, qui là aussi fait beaucoup parler aujourd'hui et ne change pas concrètement entre la directive et le règlement. Après, il y a quand même des évolutions au niveau du consentement, typiquement sur le droit à la portabilité, puisque le droit à la portabilité ne peut s'exercer que pour les traitements qui sont fondés sur le consentement ou sur un contrat. Voilà, donc il y a des cas comme ça où on trouve quand même un intérêt à avoir un traitement fondé sur le consentement, mais c'est ça reste dire une évolution assez marginale par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui.
En termes non juridiques, le droit à la portabilité des données, puisque tu viens de le citer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis inscrit dans une société A, je veux passer dans la société B. Par exemple, un opérateur télécom. Cet opérateur va devoir donner toutes les données que j'avais chez lui.
Alors,
il va donner. J'avais du cloud hébergé chez lui. Est-ce qu'il est dans l'obligation de me rapatrier toutes mes photos, mes enregistrements, etc. Qu'est-ce que ça veut dire?
En fait, le droit à la portabilité, c'est beaucoup plus large que la portabilité qu'on peut connaître au niveau télécom, c'est-à-dire portabilité du numéro. C'est pas exactement ça. C'est vraiment la portabilité des données, ce qu'on pourrait appeler en matière de cloud la réversibilité, d'une certaine manière. C'est la possibilité de récupérer les données que j'ai chez un prestataire, donc mes données à caractère personnel, et soit de les reprendre, soit de les faire transférer vers un autre prestataire, directement du prestataire A vers le prestataire B. Et évidemment, ce droit ne peut s'exercer que dans la mesure où le traitement est fondé, comme on disait, sur soit le consentement, soit un contrat. Et donc, c'est pas un droit qui est général, c'est vraiment dans certains types de traitements bien spécifiques. Et uniquement les traitements automatisés, mais ça, c'est évident.
Pardon, Guillaume.
Non, le droit à la portabilité, en fait, c'est un peu une extension d'un droit qui existe déjà, qu'on appelle le droit d'accès. puisqu'en fait, depuis l'origine, en fait, les personnes ont le droit de demander l'accès aux données qui les concernent dans le fichier de l'entreprise et d'en obtenir une copie. Et donc là, l'idée, c'est que il faudra qu'ils puissent en obtenir une copie sous un format un peu standardisé pour pouvoir passer finalement d'un opérateur à un autre. Donc ce droit, il a été quand même pensé dans le contexte de l'Internet, mais pourtant il va s'appliquer à tous les responsables de traitement, donc les banquiers ou les employeurs vont se casser un peu la tête probablement, parce qu'on voit pas trop comment techniquement tout ça va fonctionner. Mais moi, je voudrais à nouveau dire que ce droit-là, encore une fois, fondamentalement, il changera rien à l'existant, parce que le droit d'accès existe déjà. Donc attention, parce que sur les droits des personnes, il n'y a pas franchement de grande évolution pour les personnes. Par exemple, il y a un droit qu'on a créé qui est le droit à la enfin, c'est pas vraiment un droit, c'est une obligation, c'est la minimisation qui n'existait pas jusqu'à présent. C'est-à-dire que maintenant, le texte dit que les entreprises doivent respecter ce principe de minimisation. Elles ne doivent collecter qu'un minimum de données pour atteindre le but, ce qu'on appelle la finalité, qu'elles poursuivent dans leur fichier. Et là, si vous voulez, c'est effectivement quelque chose de nouveau. Sauf que là, tout le monde se dit que ça sera jamais mis en œuvre, parce que à l'époque du big data, dans un contexte économique en plus ultra concurrentiel, bah, les entreprises, qu'est-ce qu'elles font? Elles essayent de trouver de nouvelles utilisations aux données qu'elles collectent sur les gens. Et donc ce principe de minimisation qui a été mis dans le règlement, on se demande comment il pourrait être mis en application dans ce contexte du big data, avec tous les enjeux économiques, les enjeux d'emploi qui existent sur les questions de l'Internet, avec le fait qu'aujourd'hui, les opérateurs américains, qui quand même sont pas tellement soumis à ces règles, parce que certes, ils sont soumis théoriquement, mais on a du mal à les contrôler. Donc ces opérateurs américains, ils ont dans un contexte où sur le plan concurrentiel, ils sont un peu avantagés. Est-ce qu'on va vraiment aller obliger nos entreprises à leur demander de respecter à la lettre le principe de minimisation des données?
Donc, on a vu qu'il y allait avoir pas mal de sources de changement, donc DPO. En revanche, en ce qui concerne le consentement, pas beaucoup de changements. La portabilité, pas beaucoup de changements. Qu'est-ce qui va être source de changements importants?
Moi, j'ai une réponse simplement en écoutant nos invités. J'ai le sentiment, mais je peux me tromper, ils vont me le dire, que finalement, le texte précise plus de choses que les précédents, mais en réalité ouvre la porte à énormément de jurisprudence. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a tout un tas de situations qui aujourd'hui sont pas clairement déterminées, et que ça va être petit à petit, le jour où il y aura évidemment le règlement d'application et des contentieux, que la jurisprudence va nous préciser tout ça. Est-ce que je me trompe complètement ou est-ce qu'il y a de ça?
Déjà, là, il va y avoir toutes les précisions qui vont être amenées par les actes délégués et les législations nationales, parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'il y a aussi les législations nationales qui vont être amenées à préciser les choses. Donc là, on est sur, on va dire, le texte de base. Mais il y aura encore plus de dispositions après. Et effectivement, après, les juges seront amenés à préciser encore les choses et l'interprétation du texte.
D'accord. Donc, en fait, c'est parce que on est juste dans le texte de base. Bon, ça va, ça nous rassure.
Voilà. Mais encore une fois, c'est un texte européen. C'est pas forcément un type de texte auquel on est habitué en France. Enfin, en tout cas, on est habitué parce qu'évidemment, c'est pas la première fois qu'on a un règlement européen, loin de là. Mais disons que quand on passe de la loi informatique et liberté au règlement européen sur les données personnelles, ça peut faire un choc de voir le degré de précision et le volume d'articles qu'il y a dans ce texte.
Mais ça, c'est un peu le travers des textes européens qui sont négociés à 28 États et qui, du coup, finissent par être des pavés très indigestes. Voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le texte, il fait 100 pages. Il est complètement incompréhensible, hein, faut être clair. Et donc, du coup, oui, finalement, il est très précis, mais en même temps, il va laisser une grande marge d'appréciation pour la jurisprudence, pour les analyses, parce que on s'y retrouve pas vraiment en l'état. Et l'Union européenne, la Commission européenne devra effectivement publier un certain nombre de textes, de recommandations pour aider un peu à la compréhension de cette énorme masse. Et pour répondre à la question qui était posée tout à l'heure, moi je pense que les deux grands changements, c'est d'une part donc ce nouveau mode de gestion de la conformité. Les entreprises vont un peu faire non pas de l'autorégulation mais de la co-régulation, parce que elles vont dans un premier temps devoir gérer par elles-mêmes leur niveau de conformité, l'évaluer et mettre en place un certain nombre de règles pour protéger les données. Et la deuxième chose, c'est que dans un second temps, la CNIL, au niveau français ou le régulateur local dans les autres pays de l'Union européenne, va reprendre ses pleins pouvoirs de contrôle et de sanction. Et la grande révolution, c'est que à partir de 2018, la CNIL va pouvoir prononcer des sanctions financières extrêmement lourdes, à hauteur de plusieurs millions d'euros, ce qui est un vrai changement parce que jusqu'à présent, la CNIL ne peut prononcer que des amendes extrêmement faibles de quelques dizaines de milliers d'euros jusqu'à 150 000 euros. Demain, elle pourra taper beaucoup plus fort sur la table, un peu comme ce qui se fait dans le domaine de la concurrence, hein, du droit de la concurrence. Donc ça, c'est plutôt bien pour essayer de contraindre les entreprises à respecter les règles, y compris les entreprises hors Union européenne, hein, comme les entreprises américaines. Le problème là aussi, c'est que là où il y a une incertitude, c'est que les pouvoirs de sanction pécuniaires de la CNIL, ils existent depuis 2004, donc depuis plus de 10 ans maintenant, et le constat qu'on fait, c'est que la CNIL les a pour le moment assez peu utilisés. Si vous regardez le rapport annuel pour 2015, c'est-à-dire pour l'année dernière, la CNIL, elle a prononcé 3 sanctions pécuniaires. Voilà. Donc demain, il faudra qu'elle en prononce plus, parce que sinon, ça servira à rien et les entreprises feront ce qu'elles voudront.
Voilà. Typiquement, celui qui détient le record, c'est Google, hein, qui est quand même tout seul sur le podium sur les sanctions les plus importantes, hein, une fois 150 et deux fois 100 000. Mais clairement, ça fait pas grand chose.
Enfin, je veux dire, et sur le nombre de sanctions. Sur le nombre de sanctions, enfin, moi, je vois les affaires dans la concurrence par rapport au nombre de sociétés qui se font pas vraiment concurrence. C'est vrai que lorsqu'il y en a eu, ça a été à coup de millions. Donc, des grands concurrents se sont entendus en secret et que le problème, c'est la preuve. Le problème, c'est la personne qui amène à ce que l'information soit publique. Et là, effectivement, il y a eu des millions et ça leur a coûté cher. Je pense qu'ils ont intérêt à pas recommencer. Mais en fait, il y a très peu, à ma connaissance, hein, de sanctions aussi sur la concurrence. C'est très rare.
Oui, mais on est sur un domaine qui est beaucoup plus limité. La compétence de la CNIL demain va être beaucoup plus large puisqu'elle a vocation à contrôler toutes les entreprises, toutes les administrations qui manipulent de la donnée, c'est-à-dire en gros tout le monde.
Je pense qu'on n'a pas cité le chiffre qui est important, hein, au niveau des sanctions. Ouais, c'est 4% donc du chiffre.
Alors en fait, c'est 20, alors il y a deux choses parce que il y a quand même par défaut, c'est 10 millions d'euros et 2% du chiffre d'affaires annuel mondial. Et pour les cas les plus graves, c'est-à-dire les manquements à tout ce qui concerne les principes de gestion des données, tout ce qui concerne les droits des personnes concernées, les transferts en dehors de l'Union européenne, et puis le refus d'obtempérer à une injonction, notamment, là, on passe à 20 millions d'euros, ou, si ce chiffre est supérieur, 4% du chiffre d'affaires annuel mondial. Et on parle bien du chiffre d'affaires, hein, c'est pas du résultat ou autre. Donc, sachant que 4% du chiffre d'affaires annuel mondial, ça n'a rien à voir avec 150 000 euros pour les grands acteurs d'Internet aujourd'hui, ça devient dissuasif. Et ça devient d'autant plus dissuasif que ça, c'est ce qu'il y a en Europe, mais on commence à avoir la même chose dans d'autres États dans le monde. Et du coup, l'appréciation du risque, maintenant, elle se fait de manière mondiale pour une entreprise. C'est-à-dire que pour une multinationale, c'est combien j'ai de pourcents en Europe, combien j'ai de pourcents en Inde, etc., etc.
Ah, la difficulté, ce sera la preuve. Hein.
Mm-hmm.
Oui, ah bon, je me place peut-être un peu côté genre expert judiciaire, mais la difficulté, ce sera la preuve.
Bien sûr, mais ça, ces difficultés, on l'a aussi aujourd'hui, on l'a déjà. Mais simplement, la question sera de savoir si les autorités de contrôle vont prononcer des sanctions de ces montants-là. C'est-à-dire, est-ce qu'on va avoir des sanctions à 100 millions d'euros? Est-ce qu'on va avoir des choses comme ça pour des grands groupes?
Pour les grands groupes, c'est pas 100 millions d'euros. Hein. C'est
non, mais
monte beaucoup plus haut que ça. Hein.
Oui, bien sûr. Voilà, mais ne serait-ce que ça.
Réfléchis. Là, on parle de maximum. Un maximum, c'est une peine maximum. C'est quelque chose qui est prononcé en récidive. Il faut vraiment que les gens aient recommencé un nombre de fois incalculable pour que soit prononcée une peine maximum, sinon ça n'arrive jamais. Donc il faut tout de suite retomber dans la réalité, et la réalité des peines, ce sera pas du tout le maximum, ce sera 10 fois moins que le maximum.
Donc c'est pour ça,
et ce sera déjà une grosse peine.
Si déjà on a une sanction à 100 millions d'euros sur le fondement des 4% maximum du chiffre d'affaires annuel mondial, ça déjà, ça pourra marquer les esprits.
Oui. Alors, tout ça, ça pose quand même la question de quel rôle jouera la CNIL dans ce nouveau contexte, avec ses nouvelles missions. Voilà, c'est une vraie incertitude. Et en même temps, il faut dire que la CNIL aujourd'hui n'est pas toute seule, parce qu'il y a encore 10 ans ou 15 ans, qui faisait la régulation informatique et liberté, c'était la CNIL et personne d'autre. Depuis, les choses ont beaucoup changé. Par exemple, la jurisprudence s'est beaucoup développée au niveau français, mais aussi au niveau européen. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sont les juges aussi qui protègent les données des personnes dans des contentieux. On évoquait tout à l'heure le droit au déréférencement, qui est un droit qui a été consacré par le juge européen, alors que la CNIL et ses homologues étaient opposés à ce nouveau droit depuis des années. C'est le juge européen qui a fait tomber ce qu'on appelle le Safe Harbor, vous savez, c'est cet accord international entre l'Europe et les États-Unis qui permettait d'envoyer de la donnée personnelle aux États-Unis dans un cadre qui n'était pas suffisamment protecteur. C'est le juge européen qui a fait tomber ça. Et donc, ce qu'il faut se dire, c'est qu'avec ce nouveau texte, eh bien, il y aura un contentieux qui va se développer devant la CNIL, mais aussi devant le juge, et qu'effectivement, le juge, il sera là pour protéger les gens en leur octroyant des dommages d'intérêt, en les aidant à se faire des fichiers quand il y a besoin, et puis pourquoi pas en prononçant des sanctions pénales, parce qu'il faut rappeler, et ça, ça changera pas, que toutes les dispositions de la loi informatique et liberté, elles sont aussi pénalement sanctionnées, c'est-à-dire que le juge peut prononcer des peines d'amende ou des peines de prison à l'encontre des chefs d'entreprise.
Alors jusqu'à présent, c'était l'entreprise qui était porteuse du traitement qui était mise en avant. Là, le règlement introduit des responsabilités de sous-traitance. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ?
Bah, en gros, il met, alors pas sur le même plan, mais globalement, les obligations qui aujourd'hui ne concernent que le responsable de traitement, c'est-à-dire si vous allez regarder dans la loi informatique et liberté, vous allez voir que le sous-traitant, on n'en parle quasiment pas. On en parle à l'article 35 de la loi, et c'est à peu près tout. Demain, avec le règlement européen, le sous-traitant est aussi concerné que le responsable de traitement, dans la mesure où il a le même type d'obligation, il doit aussi tenir un registre des traitements, il peut aussi avoir un DPO. Voilà. Disons que les.
D'ailleurs, on parle de co-responsabilité.
Oui. Alors, la co-responsabilité, elle est entre responsables de traitement sur le fait que voilà, on peut avoir là aussi des. Voilà. Mais en gros, on a effectivement un partage entre celui qui est le responsable de traitement initial et puis tout ce qu'il peut déléguer d'une certaine manière au sous-traitant. Mais le sous-traitant continue à être responsable en dehors du cadre du seul contrat qui le lie au responsable de traitement, c'est-à-dire que le règlement européen a un véritable statut du sous-traitant, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent.
Didier Hénin, en tant que RSSI, comment est-ce que tu appréhendes GDPR ?
Alors, en tant que RSSI, mais aussi en tant que CIL, même si je ne suis pas officiellement déclaré comme CIL, donc je m'occupe déjà de tout ce qui est protection des données à caractère personnel, et notamment j'ai déjà un registre qui recense l'ensemble des traitements vers nos sous-traitants, en tout cas, vers qui nous avons des données à caractère personnel, et nous avons aussi toute la partie contractuelle qui est révisée. Chez nous, nous avons un contrat cadre avec nos sous-traitants permettant de mettre des articles bien précis correspondant aux recommandations de la CNIL, mais aussi nous avons pris les devants en mettant aussi un peu la partie de preuve et donc de sécurité des données que nous transférons éventuellement vers nos sous-traitants, de manière à ce que nous puissions avoir la certitude que ces données sont bien protégées chez nos sous-traitants. Donc avec tout un tas de procédures, de revues contractuelles, de revues en fait de tous les éléments de sécurité deux fois par an, par des questionnaires que nous envoyons, et tout cela en fait est déjà pris en compte, je dirais depuis à peu près une année. Nous avons déjà mis en œuvre tout un tas d'éléments petit à petit, de manière à pouvoir anticiper effectivement l'arrivée dans deux ans de ce règlement, de l'application en tout cas du règlement en 2018.
Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui créent comme ça une sorte de monsieur GDPR pour organiser la transition pendant ces deux ans.
Une question à Didier, encore. Il y avait dans le paquet télécom au niveau de l'Europe une obligation de déclaration en cas de perte, on va dire, de données personnelles ou de piratage peut-être lié aux données personnelles, qui là se généralise. Est-ce que dans ton entreprise, ça change des choses et comment tu gères ça?
Eh bien, nous avons un registre, une main courante, tout simplement, en fait, de toutes les actions qui interviennent, en fait, sur notre système d'information. Et nous avons aussi des interrogations, de la même manière, vers nos sous-traitants, de manière à savoir si eux-mêmes ont un registre, une main courante, encore une fois, nous permettant d'avoir une preuve et aussi, en fait, de savoir quel est le risque de fuite d'informations quelque part correspondant donc aux données des clients, par exemple de nos clients, de manière à pouvoir éventuellement leur signaler directement dans un temps très court, hein, puisque encore une fois dans le règlement européen il est demandé de signer cela de manière très rapide aux clients, de manière à ce qu'ils puissent prendre les mesures nécessaires et adéquates afin de changer éventuellement leur mot de passe.
Mais est-ce que c'est pas un grand changement ça, puisque bien souvent les RSSI cachaient en quelque part, ou les entreprises cachaient les piratages dont elles étaient victimes, ou les violations de données personnelles. Alors même si avec l'introduction des CIL, la CNIL devait ou aurait dû être davantage au courant, est-ce que c'est pas un changement presque à 180 degrés d'attitude pour les entreprises et avec ces obligations-là, est-ce qu'il n'y a pas un impact sur la culture de l'entreprise?
Il est très difficile pour les entreprises d'avouer qu'effectivement qu'elles se sont fait hacker et pirater leurs données. Il est bien évident que personne n'est heureux de le dire, mais il n'empêche que de plus en plus, nous voyons effectivement les RSSI tenir en fait ce genre de registre, même s'ils ne sont pas CIL, même s'ils ne correspondent pas directement sur la fonction de CIL, mais on se doit de tenir en fait de ce genre de registre de manière plus simplement, même si on le fait pour signification auprès de la CNIL, mais ne serait-ce pour tout simplement avoir les contre-mesures mettre en œuvre pour pouvoir savoir de quelle manière est-ce que nous avons pu avoir une attaque, par où elle a pu arriver, etc., etc. De manière à pouvoir anticiper les attaques et futures de même genre.
Alors justement, est-ce qu'il faut que les entreprises soient conformes uniquement en termes organisationnels, ou est-ce que on demande aussi aux entreprises, par exemple, de mieux détecter les compromissions, donc d'être plus efficaces sur les aspects techniques?
Il faut être plus efficace sur les aspects techniques. Nous devons mettre, c'est ce qui est marqué bien évidemment dans le règlement européen, de mettre tout en œuvre de manière à pouvoir sécuriser l'ensemble des données à caractère personnel et d'apporter la preuve. C'est surtout cela qui est important, c'est de pouvoir apporter la preuve en fait du niveau de sécurité suffisant de manière à pouvoir éviter justement ce genre de déséquilibre.
D'accord. Donc en gros, une compromission est survenue. Certes, cette compromission est survenue, mais j'ai mis en place un certain nombre de process et de mécanismes de sécurité qui font que, en gros, j'ai fait quand même le nécessaire.
Oui, tout à fait. Avec l'analyse d'impact, comme le précisait tout à l'heure Hervé, voilà, il y a tout un tas d'éléments, je dirais, administratifs et techniques aussi à mettre en œuvre dans tous les traitements de données à caractère personnel, de manière à pouvoir apporter la preuve en cas de fuite d'informations, je dirais, et en cas de contrôle, bien évidemment, de manière à faire quelque part du forensic, quoi.
Ça, c'est pour la partie fuite d'informations après un piratage, mais le règlement est, à ma connaissance, et nos invités me contrediront probablement, mais c'est une première. On voit des mots barbares apparaître dans le texte européen, tels que chiffrement et pseudonymisation.
Oui.
Qu'est-ce
Alors,
que c'est
tout
que tout ça?
Alors, en fait, l'idée, c'est que l'obligation de sécurité...
Non, chiffrement, ça n'est pas un mot barbare pour nos auditeurs. Hein. C'est la base, c'est le petit pourcent qui fait que la sécurité fonctionne. Hein.
Oui, mais dans un règlement européen, c'est une première.
C'est beaucoup mieux que de dire que les données doivent être rendues incompréhensibles. C'est déjà une explicitation que...
Non, non, alors à l'aide d'une convention secrète, hein, sinon ça vaut rien.
À ce moment-là, il faut aller sur le terrain de inintelligible, qui était la formule qui était employée avant. Hein. Mais bon, bref. L'idée, c'est que l'obligation de sécurité aujourd'hui, enfin dans le règlement, elle est formulée d'une manière assez large, puisque en gros, il faut mettre en œuvre les mesures à la fois techniques et organisationnelles, donc vraiment les deux, qui permettent de garantir un niveau de sécurité adapté au risque. C'est comme ça que c'est écrit. Et à partir de là, on cite effectivement le chiffrement ou la pseudonymisation comme des techniques de sécurité pouvant être mises en œuvre. Alors, juste un mot sur la pseudonymisation, ça consiste à faire un petit peu comme ce qu'on peut imaginer l'anonymisation, sauf que on a toujours quelque part la possibilité de refaire un lien entre l'information et la personne. Donc typiquement, quand on fait du chiffrement ou quand on applique une fonction de hachage, on est sur de la pseudonymisation. Et donc, à partir du moment où on a mis en œuvre de telles mesures de sécurité, à ce moment-là, dans le cadre de la notification des violations de sécurité, eh bien, on a un allègement. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé, notamment de notifier aux personnes concernées, si on a mis en œuvre des mesures de sécurité sur les données qui, par exemple, ont fuité. Donc, typiquement, si on a chiffré les données qui ont fuité, à ce moment-là, on a un allègement par rapport à la notification, puisqu'on considère que si les données étaient chiffrées, le risque est moins élevé.
Enfin, ce que tu dis à travers la pseudonymisation et le hash, c'est que on peut toujours faire l'opération inverse, mais c'est pas vrai dans le cas d'un hash,
alors,
justement.
Oui, mais alors justement, dans les avis qui ont été rendus, notamment par le groupe de l'article 29, la pseudonymisation, le simple fait que par force brute, en théorie, on puisse y arriver, fait qu'on n'est pas sûr de l'anonymisation. Voilà. C'est l'anonymisation, c'est vraiment il y a une perte irréversible, irrémédiable, et même en ayant toute l'énergie ou plus entre guillemets de l'univers, eh bien on ne pourra pas y arriver. L'idée, c'est vraiment ça, c'est vraiment de dire s'il existe un moyen ou une probabilité même infinitésimale de retrouver le lien entre une information et une personne, on est sur de la pseudonymisation et pas sur de l'anonymisation. Donc, dans le cadre d'une fonction de hachage, par force brute, en théorie, on pourrait y arriver.
Je pense que les chercheurs en sécurité qui vont nous écouter vont être contents d'entendre ça.
Donc ça, ça vient d'un avis du groupe de l'article 29, hein. Donc qui est le groupe des CNIL européennes.
On parle aussi, alors, sécurité by design, privacy by design.
Alors, by design et by default, hein. Il y a les deux.
Oui, tout à fait.
Alors l'idée, la différence entre les deux globalement, c'est que le security by default, c'est avoir le moins de données possible. Ça concerne vraiment la donnée, c'est-à-dire collecter, traiter le moins de données personnelles possible. Alors que le security by design, c'est, on va dire, tout ce qui est autour pour traiter la donnée et faire en sorte que tout ce qui va traiter la donnée soit conforme au règlement. Voilà, c'est ça la différence entre les deux. Il n'y a pas vraiment de différence entre à l'origine du projet et pendant le projet, même si on peut avoir l'impression que security by design, c'est au moment où on conçoit le projet. En réalité, le by design, c'est vraiment tout ce qui va être autour de la donnée, la manière dont elle va être utilisée, traitée, pour faire en sorte que ce soit conforme à ce que prévoit le règlement, alors que security by default, c'est vraiment sur la donnée elle-même et s'assurer qu'on n'a pas de données dont on n'a pas besoin, qu'on a vraiment le minimum de données possible. Et ça, ce sont des principes qu'on retrouve fortement dans le règlement.
Je crois que dans le texte, hein, les termes, c'est exactement privacy by design et privacy by default.
Tout à fait, exactement.
Ouais, et ça, en fait, ce concept-là, finalement, c'est un peu la synthèse du règlement européen, puisque l'objectif, hein, c'est bien d'inciter les professionnels à anticiper les risques, identifier les zones de risque pour les données personnelles contenues dans leurs fichiers, déterminer des mesures correctives, et donc, finalement, intégrer les questions de protection de la vie privée le plus tôt possible, voire même dès le stade de la conception de l'outil informatique lui-même. C'est aussi pour ça que les sous-traitants, ce qui était dit tout à l'heure, les sous-traitants auront en 2018 un rôle plus important et une responsabilité plus importante qu'hier, parce qu'on va leur demander de participer à tout ce travail de privacy by design, c'est-à-dire dans les outils qu'ils vont vendre aux entreprises, ben, il faudra qu'ils vendent aussi la brique protection des données.
Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les sociétés de services en sécurité informatique.
Oui.
Alors justement, ou pas, je suis un chef d'entreprise, je suis préoccupé par GDPR. Qu'est-ce qu'on pourrait me donner comme conseil pour adresser cette problématique?
Déjà, s'il
nous écoute, il a tout compris, parce qu'il a fait le premier pas, c'est de correctement s'informer. Et nous le félicitons, ce chef d'entreprise qui nous écoute.
Après, le deuxième pas, ça peut être, donc pas forcément, enfin, on peut aller regarder le règlement, voilà, mais de vraiment faire une sorte de gap analysis entre ce qu'il y a aujourd'hui et l'objectif de 2018. Potentiellement, un correspondant informatique et liberté, futur DPO, ça peut être utile pour justement la mise en conformité. On évoquait tout à l'heure le fait que certaines entreprises ont déjà désigné un monsieur GDPR pour faire la transition, mais ce monsieur GDPR, ça peut très bien être un correspondant informatique et liberté qui demain sera DPO. Après, tout dépend du temps et des ressources que l'on peut consacrer au projet, mais clairement, demain, la conformité avec le règlement européen, ce sera soit un avantage concurrentiel, soit simplement éviter d'avoir un désavantage concurrentiel. Puisque si tout le monde est conforme et se met en conformité, celui qui sera pas en conformité aura un risque d'image important. Et finalement, c'est ça qui est aussi le risque le plus fort à partir de 2018, puisque on a parlé des sanctions financières des 20 millions d'euros, des 4% du chiffre d'affaires mondial, mais la vraie sanction, elle est aussi en termes d'image. Il y a une vraie attente aujourd'hui en termes de protection des données personnelles de la part des personnes concernées, et une sanction même faible peut avoir des impacts en termes d'image. Il y a des sociétés qui ont réfléchi à changer de nom après avoir simplement eu un avertissement de la CNIL. Donc voilà, c'est pas seulement la sanction financière, c'est la sanction aussi d'image. Et là-dessus, se préparer au règlement européen, c'est aussi préparer, on va dire, préserver son image à partir de 2018.
C'est là où je te rejoins pas tout à fait, Frédéric, sur l'analyse des sanctions. Et j'ai cru comprendre que nos invités étaient plutôt de ton côté sur l'analyse. Mais vous avez cité tout à l'heure qu'il y a eu trois amendes de 2 fois 100 000, je crois, une fois 150 000.
Tout à fait.
Qui a publié plusieurs fois, quitte à faire tomber le site de la CNIL, si j'ai bon
souvenir. Exactement, tout à fait.
Finalement, on voit bien que l'application le risque d'image, en tout cas pour cette société-là, a été moindre, on va dire, parce que tous les Français quasiment continuent toujours autant à utiliser ces services. Par contre, on voit que, alors je sais pas combien est le chiffre d'affaires de... Peut-être quelqu'un pourra nous le dire sur ce podcast, mais si on prend 2 ou 4%, là, on va réussir à toucher des choses au-delà de l'image, à mon avis.
Non, mais là, ce que tu touches, c'est simplement la conséquence en termes d'atteinte à l'image. La conséquence en termes d'atteinte à l'image est un sujet en tant que tel, sur lequel beaucoup de gens, quelle que soit la nature de l'appréciation des risques qu'ils réalisent, que ce soit du risque opérationnel ou tout ce que vous voulez, se trompent. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une banque qui a disparu, il y a vraiment un grand cabinet d'audit comptable qui a disparu, et de l'autre côté, il est vrai qu'il y a des gens qui ont eu des pannes absolument monstrueuses. Donc là, je parle de tout à fait autre chose, des pannes absolument monstrueuses dans un secteur concurrentiel. N'oubliez pas que l'immense majorité des secteurs qui manipulent des données à caractère personnel sont aussi des monopoles, ou des quasi-monopoles. Donc là, il n'y a pas le choix. Eh bien, même dans des domaines concurrentiels, par exemple, où il y a, plusieurs opérateurs GSM, eh ben, l'opérateur GSM qui a son réseau qui n'a plus fonctionné, et franchement, et en termes d'image, ça aurait dû lui faire mal, ça n'a rien fait. Donc, il y a souvent une erreur sur l'analyse des conséquences de l'image. Donc ça, c'est complètement décorrélé du sujet. Donc là, aujourd'hui, notre sujet, c'est les conséquences sur les fuites, les pertes, les divulgations, je ne sais quoi, sur les données à caractère personnel. Mais c'est souvent une erreur qui est faite. À l'inverse, il y a quand même des groupes de pression qui ont obtenu des résultats en disant, faut plus acheter tel produit. Donc, des fois, ça marche, hein. Voilà. Mais c'est très complexe d'analyser les conséquences. Et souvent, l'erreur des consultants, c'est d'exagérer les conséquences en images.
Concrètement, je veux dire, c'est sûr que etc., qui ont eu des problématiques d'image aux États-Unis par rapport à une législation américaine, ils sont toujours en vie, ils ont pas de problème par rapport à ça.
Voilà. Simplement, ils ont fait des fuites de données absolument monstrueuses. Les données des cartes bancaires, ils ont fait des énormités. Ils se sont ridiculisés. Mais il y a d'autres grandes entreprises qui sont ridiculisées dans d'autres circonstances. Eh bien, ils ont beau avoir été ridiculisés, mais jusqu'à la moelle, mais en termes d'image, mais ils n'ont rien perdu. Alors peut-être ils étaient des monopoles. Ils n'ont rien perdu. C'est pas vrai. Ils n'ont pas perdu de clients. Ils n'ont pas perdu de joueurs. Ils n'ont pas perdu. Quand ils en perdent, c'est pour d'autres raisons. Mais donc quelquefois, l'image, ça n'a alors absolument aucune importance.
Mais là, on parle quand même des très grandes entreprises qui ont une notoriété mondiale, etc. C'est pas forcément la même chose pour une PME qui n'a pas un service de communication, etc. Et qui, quand elle va avoir un problème de ce type-là, va avoir à gérer une crise en termes de communication qu'elle sera pas nécessairement capable de gérer.
Donc, oui, mais quand on voit les amendes là qui sont, enfin les sanctions qui sont proposées, ouais. Clairement ces sanctions-là, elles n'ont pas été faites pour des PME. Elles ont été faites
non.
pour.
Mais il ne faut pas oublier quand même que l'immense majorité. Oui, mais l'immense majorité des responsables de traitement restent des PME.
Si on demande à Didier, Didier, pour ton entreprise, qui manipule des données personnelles, ce qui motive les dirigeants à faire attention à investir dans le sujet, c'est le risque d'image, c'est le risque de sanctions pécuniaires. C'est quoi celui qui est le plus moteur?
En premier, c'est bien évidemment le risque d'image. Dans un monde concurrentiel tel que la grande distribution, nous observons les uns les autres. Et bien évidemment, c'est une perte de confiance d'une partie de nos clients qui irait immédiatement à la concurrence. Et ça, c'est déjà vu. Hein. On a déjà vu d'autres entreprises, pas tout à fait dans le même secteur que le mien, mais qui traitent énormément de clients également et qui ont eu une perte de fréquentation directe en magasin de 4%. Et ça, c'est un effet direct. Après, bien évidemment, les clients reviennent, mais il faut ramer, il faut utiliser d'intelligence marketing de manière à pouvoir faire revenir les clients. Et très clairement, c'est l'image de l'image qui en prend un coup. Après, les sanctions pécuniaires, à ce jour, bien évidemment, c'est quelque chose d'important puisque nous ne sommes pas des grands monopoles de l'internet, par exemple. Mais je veux dire, avec la partie du règlement européen qui peut aller encore une fois jusqu'à une sanction maximale pouvant aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial, là, ça pique beaucoup plus. Et ça pourra piquer beaucoup plus. Donc là aussi, on observe très clairement aussi, et on n'aimerait pas, en fait, on n'aimerait pas pouvoir être dans cette situation et de perdre de confiance de nos clients et de sanctions financières.
Peut-être un mot pour les auditeurs qui devraient mettre en place justement ce règlement européen dans leur entreprise. Donc on l'aura bien compris, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de choses à faire. Mais est-ce qu'on a une idée du coût que ça peut être? Donc on avait déjà la loi de la CNIL en France 78, on avait la directive européenne de 95. Donc il y a déjà des choses qui existent, mais là on va à mon sens encore plus loin. Est-ce que vous avez une idée du coût?
Ça dépend du type d'entreprise.
Tout dépend du point de départ de l'entreprise, de la maturité de l'entreprise, de son système d'information, de son système de connaissance de toute la documentation, de sa prise en compte à tout niveau. Enfin voilà, il n'y a pas de normes. Ça dépend vraiment de la maturité de l'entreprise dans ce domaine.
Ce qu'on peut dire simplement, c'est qu'en proportion, ce sera sans doute beaucoup plus important pour les petites structures que pour les grosses.
Et ce qui est sûr, c'est qu'il faudra mettre à profit les deux prochaines années pour évaluer ce coût. C'est-à-dire que dans les conseils qu'on peut donner aux dirigeants qui veulent un peu savoir à quelle sauce il va être mangé, il faut vraiment profiter des 2 ans là de transition pour évaluer les conséquences du règlement sur son entreprise, c'est-à-dire à quelles obligations exactes je vais être contraint, est-ce que je dois désigner un correspondant informatique et liberté, est-ce qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels je vais devoir rédiger des études d'impact. Finalement, est-ce que dans la grille des obligations qui figurent dans le règlement, est-ce que je dois respecter beaucoup de choses ou pas, et quel sera le coût associé. Et ça, je pense qu'il vaut mieux effectivement y réfléchir avant la mise en place du règlement.
Eh bien, ça me semble être une excellente conclusion. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Oui, très bien.
Guillaume, Didier, Frédéric, un grand merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci bien.
Merci.
Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Et nous vous donnons donc rendez-vous à très bientôt pour un nouveau podcast. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.